Vous écoutez, on lit pour vous.
Reine d'une télé-réalité décarbonée. Un texte de Valérie Simard, paru le 16 janvier 2026 dans La Presse. Ils étaient six à s'affronter dans cette télé-réalité hors du commun. Pas de voyage au Chili et d'ostentatoire demeure ici. C'est plutôt l'éco-responsabilité qui était au cœur des décarbonés, une compétition télévisée récemment remportée par Mélanie McCulloch. Dans les 10 épisodes de l'émission, diffusée sur les ondes d'Uni TV à l'automne 2025, on la voit réparer une sacoche avec des attaches autobloquantes, tie wraps, pédaler pour recharger des appareils, trier des déchets et craquer devant une machine à coudre dans une épreuve qui aurait pu lui coûter la victoire. On ne le voit pas, mais à un moment donné, je vais dans la salle d'essayage et je pleure, raconte l'agricultrice de Farnham, rencontrée sur sa terre quelques semaines après la diffusion de la finale. Dans cet épisode, les participants disposaient de peu de temps pour confectionner une tenue de gala extravagante à partir de vêtements dénichés au centre de liquidation de Renaissance. Nul en couture. C'est Mathieu, son conjoint, qui coud mes boutons. Mélanie craignait alors davantage de se ridiculiser que de voir la victoire lui échapper. Même si elle a terminé au cinquième rang dans cette épreuve, son discours final a suffisamment plu aux juges, Louise, Hénaud Étier et Alex Perron, pour lui permettre d'arracher la victoire et de remporter le prix qui y était associé, 10 000 $ en argent, une pergola avec panneau solaire et la location d'une autocaravane électrique. Plus que le prix, c'est avant tout l'occasion de relever un défi personnel et de porter un message qui a incité la femme de 41 ans, mère de deux enfants et copropriétaire des jardins Diversi Bio, à se porter candidate pour cette compétition ludique animée par l'humoriste Corinne Côté. Une émission qui, croit-elle, dédramatise l'écologie et la rend accessible à tout le monde. Anxieuse écologique. Je suis une anxieuse écologique, confie Mélanie McCulloch. J'ai deux enfants. Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qu'on va leur léguer? Mais j'essaie toujours d'amener ces propos-là d'une façon qui n'est pas négative. Le message passé à travers l'émission, c'est aussi que c'est une affaire d'équipe. On était toutes des personnes complètement différentes, mais quand les valeurs profondes sont les mêmes, les liens se créent. Même si les concurrents étaient évalués sur une base individuelle, la plupart des épreuves se sont déroulées en équipe, non sans quelques disputes. On a appris sur nous, sur comment on peut être dans des situations parfois difficiles, souligne Mélanie. Le tournage ayant eu lieu en été, plusieurs défis se sont déroulés sous un soleil de plomb, avec des températures dépassant les 30 degrés Celsius. L'épisode où les décarbonés doivent construire une serre en quelques heures a été particulièrement éprouvant, remarque Mélanie. Mais le défi le plus difficile pour elle a été le tout premier. Les participants devaient réparer une variété d'objets et les vendre dans la rue, un exercice qui ne lui a pas plu. À ce moment-là, je me suis dit, on va tous se ridiculiser tout le long de cette émission, finalement. Après avoir terminé au dernier rang de cette première épreuve, elle a tranquillement remonté la pente au fil des semaines pour être couronnée reine des décarbonés lors de l'ultime épisode de la saison offerte en rattrapage sur la plateforme numérique d'Uni TV. Finalement, c'est son leadership, davantage que ses habiletés manuelles, qui s'est avéré payant. La vainqueur se défend d'être une écolo parfaite. Aspirer à la perfection freine d'ailleurs l'action, selon elle. Avant sa participation, sa famille avait déjà adopté plusieurs habitudes éco-responsables, mais l'émission lui a fait certains rappels, notamment sur la consommation d'eau. Dans le cinquième épisode, les décarbonés doivent accomplir une série de tâches avec seulement 50 litres d'eau, alors qu'on apprend que le Québécois moyen en consomme 4 fois plus quotidiennement. L'émission ne contribue-t-elle pas à marteler le message que le sort de la planète repose sur les individus? C'est toujours là que le bât blesse, reconnaît Mélanie. On sait très bien qu'il y aurait de plus gros changements s'ils venaient de plus haut. En même temps, est-ce qu'on va toujours attendre après ça? Peut-être que je vis la tête dans le sable, mais j'aime mieux vivre la tête dans le sable et avancer à ma façon, puis mettre des choses en place à ma façon, que d'être paralysé par la peur. Sa source d'inspiration. Elle se nomme d'emblée Jane Goodall, célèbre primatologue britannique disparue en octobre dernier, et l'une de ses célèbres déclarations. Il n'y a pas une seule journée où nous n'avons pas d'impact sur le monde qui nous entoure. Ce que nous faisons fait une différence, et c'est à nous de choisir quel type de différence nous voulons créer. Cela fait écho à une conviction que je porte au quotidien. Peu importe qui nous sommes, nous avons tous un impact sur le monde, chaque jour. La vraie question est donc, quel impact voulons-nous avoir? Affirme Melanie McCulloch. C'était Reine d'une télé-réalité décarbonée. Un texte de Valérie Simard, paru le 16 janvier 2026 dans La Presse.
Ce qu'il reste de nous. Un texte signé José Boileau, publié dans l'actualité édition de mars 2026. Nous sommes à l'automne 2010. Antonine Maillet vient de publier « Fais confiance à la mer, elle te portera », où elle décortique son rapport à la littérature. Dans une entrevue accordée au quotidien Le Devoir, elle ose alors une prédiction. Citation « Le monde a été oral jusqu'à la fin de l'écriture et il y en a eu du monde avant. » Ellipse, c'est une technologie, l'écriture, qui peut être dépassée, qui pourrait devenir une langue morte comme le grec et le latin. Fin de citation. Quand l'écriture s'éteigne, une telle idée m'avait marqué et indigné. N'empêche qu'à l'époque, la popularité croissante des messageries instantanées amenait bel et bien la célèbre écrivaine à envisager cette possibilité. Citation. On est peut-être en train de passer avec le chat à autre chose, disait-elle, fin de citation. 15 ans plus tard, et 1 an après son décès, j'en suis presque à me ranger dans le camp de la grande autrice acadienne. La faute au développement vertigineux de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui fait miroiter monts et merveilles à tous les secteurs d'activité économique, cherche déjà à nous servir d'enseignants, de conseillers, de psychologues, d'amis et même d'amants. Reste que ses talents artistiques peuvent être époustouflants, même quand ils s'alimentent de l'originalité de vrais créateurs d'œuvres. L'intelligence artificielle générative écrit des romans, compose des chansons, réarrange des photos, des films, des tableaux. Déjà, des créateurs tirent leur révérence devant ce potentiel. Des publications supposément journalistiques sont entièrement rédigées par l'intelligence artificielle et parfois, on ne sait plus distinguer le vrai du faux. Les médias sérieux, eux, mettent à jour leurs règles d'utilisation de l'intelligence artificielle en répétant s'en tenir à un principe fondamental. Elle peut aider un journaliste, pas s'y substituer. Pour le moment, ai-je envie d'ajouter. L'intelligence artificielle finira bien par pouvoir se surveiller elle-même avec rigueur et efficacité. On n'arrêtera pas le progrès si tant est qu'on puisse associer ce mot à un aussi bouleversant changement de paradigme. Car il faut bien admettre que les moyens de communication qui ont accompagné le développement des civilisations, des dessins sur les murs des cavernes aux messages abrégés à déchiffrer sur nos cellulaires, s'éloignant pour de bon d'un contact d'humain à humain. C'est la machine qui est désormais à l'autre bout du fil. Je trouve cela affolant, à moins de me plier à la sagesse d'Antonin Maillet. On ne sent ni révolte ni désolation dans son entretien avec le Devoir. Pourtant, elle aurait pu s'émouvoir, car elle y disait aussi, citation, « Si j'ai un titre de gloire, c'est d'avoir fait passer l'acadien d'une langue orale à l'écrit. » Fin de citation. Pour Antonine Maillet, à ce moment précis de l'histoire, c'était le geste à faire pour assurer une reconnaissance à son peuple, puisque l'écriture est aujourd'hui synonyme de maîtrise et de domination. La souffrance des nations autochtones est d'ailleurs indissociable de cette non-reconnaissance de leur histoire basée sur l'oralité. Mais quand on englobe les millénaires passés et ceux à venir, la perspective change. Citation, « Les grandes épopées se chantaient », fin de citation soulignait ainsi l'autrice. De fait, les chants, comme les contes, relèvent d'une vaste richesse d'inventions collectives, alors que l'écriture fut longtemps réservée à des personnes composant une élite détachée des collectivités. Avons-nous vraiment rompu avec cette division? Le taux d'analphabète fonctionnel au Québec prouve que la démocratisation de l'écriture est inachevée. Et les livres, plus nombreux que jamais, témoignent davantage d'un besoin de se raconter que d'une soif de littérature. Peu importe le style, il s'agit de parler à quelqu'un, aujourd'hui comme c'était le cas hier. D'une manière ou d'une autre, ce besoin-là subsistera. Un détail m'a d'ailleurs accroché quand j'ai relu l'article du Devoir. À côté de Mme Maillet se trouvait un livre à demi entamé, « Le Moyen-Âge » de Jules Michelet, grand historien français du 19e siècle. Or, je suis moi-même plongé dans des livres portant sur cette période, notamment sur la place oubliée qui occupait les femmes. L'écrivaine ressentait-elle le besoin de vérifier comment on vivait dans un très lointain autrefois? Pour ma part, je cherche à comprendre les rapports à la famille, à l'économie, au pouvoir, au divertissement, complètement différents de ce qui s'est développé depuis la Révolution industrielle et à des années-lumière de notre monde axé sur les écrans. En retournant 1000 ans en arrière, je me réconforte en mesurant l'instinct de lutter ou de fêter côte à côte pour faire face aux enjeux et aux fléaux de l'époque. Résister ensemble aux dérives de son temps, c'est bien ce qui fait que l'humanité n'entre jamais dans les petites cases qu'on lui assigne. Le reste, de la technique, guillemets, qui peut être dépassée. Fin des guillemets. Et c'est la fin de ce texte de José Boileau titré « Ce qu'il reste de nous » publié dans l'actualité édition de mars 2026.
Les galaxies de l'univers primitif, de véritables usines à étoiles, un texte de Pauline Gravel, paru le 22 novembre 2025 dans Le Devoir. Une équipe internationale d'astronomes a déterminé la température d'une galaxie très brillante dont la lumière a été émise il y a 13,2 milliards d'années. Cette information leur a indiqué que les premières galaxies de l'univers primitif évoluaient à la vitesse grand V et qu'elles formaient des étoiles à un rythme effréné, soit 180 fois plus rapidement que notre galaxie, la Voie lactée. Lors d'une étude précédente, cette galaxie, dénommée Gamma 1, avait été repérée par ces nuages de poussière extrêmement brillants, ce qui en faisait la galaxie la plus éloignée à être détectée directement par la lumière émise par son abondante poussière cosmique, qui avait voyagé pendant 13,2 milliards d'années avant de nous atteindre. En d'autres termes, cette lumière nous donnait une image de la galaxie telle qu'elle était il y a 13,2 milliards d'années, soit seulement 600 millions d'années après le Big Bang. Comme les chercheurs trouvaient étrange qu'une galaxie aussi jeune renferme autant de poussière, ils se sont appliqués à mesurer sa température, car ils soupçonnaient que les conditions qui prévalaient au sein de cette galaxie, datant de l'univers primitif, étaient très différentes de celles observées dans l'univers plus récent. Pour ce faire, ils ont fait appel dans les Andes chiliennes au télescope ALMA, Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, qui se compose de 66 antennes captant le rayonnement émis par les toutes premières galaxies. Ce rayonnement leur a permis d'apprendre que les poussières de Gamma 1 atteignaient une température de 90 Kelvin, soit environ moins 180 degrés Celsius, à savoir beaucoup plus élevée que celle des autres galaxies observées jusqu'à maintenant. Une manière de déterminer si une galaxie produit beaucoup d'étoiles consiste à mesurer sa température et sa luminosité. Compte tenu des données obtenues pour Gamma 1, on pourrait la qualifier d'usine à étoiles ou de pouponnière d'étoiles, résume Nathalie Nguyen Kwok-Welet, astrophysicienne à l'Université de Montréal. Cette étude nous met sur une piste pour résoudre une problématique que les premières observations effectuées par le télescope spatial James Webb, JWST, ont soulevée. Le JWST nous a permis de voir de très jeunes galaxies très tôt dans l'univers. Or, ces dernières nous sont apparues plus grosses, plus massives et structurées, voire plus évoluées en général que prédit. En d'autres termes, nous, les astrophysiciens, quand on regarde l'univers très ancien avec le JWST, on s'attend à voir des nouveaux-nés, des galaxies nouvelles-nées. Mais ce qu'on voit, ce sont plutôt des adolescents, relève Mme Nguyen Kwok-Welet, qui est également chargée des communications pour le JWST. Si l'on présume que l'on connaît bien l'âge de l'univers, et d'après nos modèles de formation et d'évolution des galaxies, il n'y aurait pas eu assez de temps pour que ces très jeunes galaxies aient pu évoluer jusqu'à l'état où on les voit, poursuit-elle. Mais avec cette toute nouvelle découverte, on comprend en fait que cette galaxie, qui est très jeune, produit des étoiles à un taux beaucoup plus élevé qu'on l'aurait cru possible. Et elle nous indique que nos modèles d'évolution des galaxies ne sont pas exactement corrects pour le très jeune univers, car les galaxies semblent tout simplement plus efficaces à produire des étoiles et à construire leur masse. On voit une galaxie en poussée de croissance, et cela nous donne un indice sur comment toutes les galaxies adolescentes qu'on voit avec le JWST sont devenues aussi grosses, aussi rapidement. L'astrophysicienne précise que le télescope ALMA est très performant pour l'étude des poussières d'une galaxie. En l'occurrence, il a permis de voir que la galaxie Gamma 1 en contient énormément. Or, ce sont les étoiles qui expulsent toute cette poussière présente dans les galaxies. Et donc, le fait que la galaxie Gamma 1 soit très poussiéreuse nous indique qu'elle contient déjà beaucoup d'étoiles qui produisent de la poussière. Et le fait que cette poussière soit relativement chaude veut aussi dire qu'il y a beaucoup d'étoiles qui la réchauffent. Donc, la brillance et la température de la poussière laissent croire qu'il y a plein d'étoiles en formation, fait remarquer Mme Nguyen Quoc Ouellet. La galaxie Gamma 1 forme en effet des étoiles 180 fois plus rapidement que notre propre Voie lactée. Au cours de leur évolution, les galaxies ont des poussées de croissance. Et c'est à ce moment-là qu'on peut les appeler pouponnières d'étoiles ou usines à étoiles. Mais vient un moment où elles commencent à manquer de carburant et n'arrivent plus à en produire autant. Elles deviennent alors beaucoup plus tranquilles. À mesure qu'une galaxie évolue, elle devient trop âgée pour produire des étoiles. Notre galaxie à nous, par exemple, la Voie lactée, est beaucoup plus évoluée, beaucoup plus tranquille. Ce qui fait qu'elle ne produit que l'équivalent d'un soleil chaque année, alors que la galaxie Gamma 1 produit l'équivalent en masse de 180 soleils comme le nôtre par année. Elle produit peut-être quelques étoiles plus massives que notre soleil et des centaines moins massives que le soleil, par exemple. Mais si on fait la moyenne de toutes ces étoiles en termes de masse, c'est l'équivalent de 180 soleils, explique l'astrophysicienne. L'étude, qui est publiée dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, nous montre qu'on a peut-être sous-estimé la capacité des galaxies dans le jeune univers à produire des étoiles très rapidement. Donc, si avec le télescope ALMA et d'autres télescopes, on arrive à trouver d'autres pouponnières d'étoiles comme celle-ci, ça nous confirmera qu'en effet, l'univers très jeune était tout simplement rempli de ces galaxies en poussée de croissance, et ça expliquera ce qu'on observe avec le JWST. Cette étude nous met sur une piste prometteuse pour résoudre ce problème de la surabondance de galaxies très évoluées qu'on voit avec le JWST dans l'univers primitif, souligne Mme Nguyen Quoc Ouellet. C'était Les galaxies de l'univers primitif, de véritables usines à étoiles, un texte de Pauline Gravel paru le 22 novembre 2025 dans Le Devoir.
Mieux comprendre le phénomène de la transpiration. Un texte commandité paru le 16 février 2026 dans La Presse. Même si transpirer est parfois incommodant, il s'agit d'une fonction physiologique essentielle pour l'être humain. Tout le monde, sans exception, transpire. À quoi ça sert? Pourquoi certaines personnes dégagent-elles des effluves plus odorants que d'autres? Est-ce qu'il y a un lien entre l'alimentation et la transpiration? Et surtout, comment la prévenir et bien la gérer? Découvrez 5 faits intéressants sur ce phénomène naturel. Votre transpiration est vitale. Cerne sous les manches de votre T-shirt favori, dos trempé sous votre manteau d'hiver, mains moites avant un entretien d'embauche. Si transpirer vous occasionne souvent ce genre d'inconfort, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une fonction vitale pour vous. Cela permet de réguler votre température corporelle, laquelle doit se maintenir autour de 37 degrés Celsius. En produisant de la sueur à la surface de la peau, votre corps se rafraîchit par lui-même, tout simplement. En plus de la chaleur ambiante et des émotions, comme le stress et la colère, plusieurs facteurs peuvent déclencher le phénomène de la sudation, notamment l'activité physique, la consommation d'aliments épicés, une sécrétion excessive de certaines hormones et une forte fièvre. Votre sueur est inodore. Cela vous paraît peut-être difficile à croire, mais la sueur en elle-même ne sent rien. Ce sont les bactéries qui se trouvent à la surface de la peau qui se nourrissent des nutriments contenus dans la sueur qui produisent une odeur. Puisque les poils retiennent les odeurs et offrent un milieu favorable à la prolifération de ces micro-organismes, la sueur qui se dégage des aisselles et des endroits où la pilosité est plus abondante a une odeur plus forte que celle produite dans les paumes des mains ou sur le front, par exemple. La sueur est un liquide transparent composé à 99 % d'eau. Le 1 % restant contient principalement du sel et du chlore, ainsi que d'autres minéraux comme le potassium et le calcium. Votre corps peut produire jusqu'à 10 litres de sueur par jour. Le corps humain possède de 3 à 5 millions de glandes sudoripares, réparties de la tête aux pieds. Ces glandes produisent en moyenne entre 500 ml et 1 litre de sueur par jour. Si vous bougez lorsque la température est élevée, vous pouvez alors en produire jusqu'à 10 litres par jour. Or, seulement une cuillère à thé de cette sueur sera produite par les glandes situées aux aisselles. C'est pourquoi appliquer de l'antisudorifique n'empêche pas votre corps de réguler sa température. Votre alimentation influence votre transpiration. Le contenu de votre assiette peut avoir un effet sur votre transpiration et même sur votre odeur corporelle. Par exemple, manger épicé fait transpirer davantage certaines personnes. La capsaïcine, cette substance chimique que contiennent les aliments piquants, comme les piments forts, stimule le nerf responsable de la sensation de chaleur dans le corps. Résultat, les glandes sudoripares sécrètent de la sueur pour rafraîchir le corps. Les aliments riches en soufre, comme l'ail et l'oignon, de même que les légumes de la famille des crucifères, comme le chou et le brocoli, peuvent influer sur l'odeur de la transpiration. Cela est attribuable à une réaction entre les bactéries cutanées et les nutriments contenus dans la sueur produite après avoir mangé ces aliments. Votre transpiration peut être réduite et contrôlée. Même si la transpiration est une fonction physiologique essentielle, il est possible de la réduire et de la contrôler. Maintenir une bonne hygiène, porter des vêtements propres et adapter son habillement à la température ambiante sont des moyens efficaces. L'antisudorifique, un produit à base de chlorhydrate d'aluminium, permet de resserrer les pores sudoripares, ce qui réduit la transpiration et, par le fait même, les odeurs. Le déodorant, quant à lui, ne diminue pas la transpiration, mais il neutralise les odeurs grâce à ses ingrédients antibactériens et à des parfums. Les personnes qui souffrent d'hyperhidrose, transpiration excessive, peuvent en parler à leur médecin, qui pourra alors leur prescrire un traitement approprié. C'était « Mieux comprendre le phénomène de la transpiration », un texte commandité paru le 16 février 2026 dans La Presse.